Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien chers frères, lorsque Aristote veut faire comprendre la vertu de justice, il prend l'exemple du navire, surtout à son époque, les navires à voile, dans lesquels les matelots était particulièrement impliqué. La première chose qui saute aux yeux dans un navire, c'est que chacun est à son poste en fonction de ses capacités et que les postes ne sont pas égaux. Ce qui fait que d'une façon un peu paradoxale, la vertu de justice ne va pas porter sur l'égalité telle que on l'entend aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On considère que dès qu'il y a inégalité, il y a injustice. Saint Thomas d'Aquin réserve un article entier de sa somme théologique à cette question de l'égalité dans la justice, la réciprocité, et bien d'autres, mais peu importe. La première chose qui saute aux yeux, c'est que on envoie le mousse dans la mâture, on met l'homme d'expérience à la barre, on met les plus costauds à aller sur les bouts, ça s'appelle un bout et non pas un cordage, sur les cordages pour hisser les voiles. Il ne viendrait à l'idée de personne de mettre le mousse à la barre, car très vite le bateau se retrouverait en travers de la vague et par conséquent chavirerait. Il ne viendrait à personne d'envoyer les plus costauds dans la mâture parce qu'ils n'arriveraient pas à monter. Il ne viendrait à l'idée de personne de demander au capitaine de se mettre à un poste de matelot parce que sinon le navire ne serait plus dirigé, etc., etc. Par conséquent, on voit bien qu'il y a une véritable justice, en ce sens que à chacun revient ce pourquoi il est fait, ce dont il est capable, ce qui dépend de ses qualités naturelles, mais également de ses qualités de vertu, puisque on met à des postes de danger des hommes courageux, on met à des postes difficiles des hommes prudents, tels que le capitaine. Là encore, les vertus des uns et des autres vont déterminer leur capacité à prendre leur place, à tenir leur place dans la marche générale du navire. Lorsqu'il y a une tempête, cela devient particulièrement vital. On peut encore admettre qu'un bateau ne fera pas naufrage si on met un homme moins expérimenté à la barre alors que la mer est calme. On peut admettre que quelqu'un ne soit pas tout à fait à sa place, voire même qu'il aille faire la sieste. Par contre, en période de tempête, il n'est pas question que quiconque fasse la sieste. La première leçon à tirer de cela, c'est que la justice porte sur une certaine forme d'égalité qu'on appelle géométrique, mais laissez un petit peu tomber cela, une certaine sorte, pardon, d'égalité, en ce sens que les charges sont proportionnées aux forces. aux forces morales et aux forces physiques. Mais que, de notre point de vue égalitaire, moderne, la justice consiste à répartir les inégalités de façon inégale pour le bien de tous et le bien commun. Parce que ce qui est égal dans ce bateau, c'est que chacun cherche le succès de la navigation. Une deuxième leçon à tirer de cela, c'est que chacun va devoir développer ses qualités, va devoir se mettre au service du bien commun, c'est-à-dire du salut du navire. Et il n'est pas question de dire « ceci est à moi, ça ne vous concerne pas, ceci est mon heure de repos, n'y touchez pas, ceci est ma couchette, personne ne s'y mettra », etc., etc. Bien plus, il y aura une obligation de développer les vertus, de développer les capacités, de manière à mieux concourir au bien commun et au salut de la navigation. Dans un bateau où on est un peu à l'étroit, il est difficile de revendiquer que personne ne se mêle de nos affaires, au moins dans certains domaines. Un petit peu quand même, mais très peu. Et c'est la deuxième leçon de cet exemple pris par Aristote, que la vertu de justice est une vertu générale, c'est-à-dire qu'elle commande à tout et met tout au service du bien commun. Je vais vous en donner un autre exemple. Vous connaissez les chants de marins. Ils sont faits pour donner du courage. En apparence, ils ne servent pas à grand-chose, parce qu'il n'est point besoin de chanter pour tirer sur les cordages. Et cependant, si l'on ne chante pas, on n'aura pas de cœur au ventre, de cœur à l'ouvrage. Et s'il venait à l'idée d'un mousse de dire « les vieux chantent, mais moi je ne me fatigue pas », il se ferait vertement reprendre. D'une part parce qu'il manquerait quelque chose à l'élan des voix, le chant ne serait pas si prenant, poignant. Il faut entendre les caporniers chantant avec des voix mâles et graves et éraillées, les chants qu'ils chantaient sur les bateaux. Et d'autre part parce que il manquerait quelque chose au mousse, il lui manquerait de l'enthousiasme. S'il ne chantait pas, il ne hâlerait pas sur les cordages comme le fait celui qui chante. La vertu de justice est une vertu générale. Elle commande à chaque particulier, à chaque individu, mais j'aime pas le terme individu, elle lui commande non seulement d'être au service du bien commun, mais d'y venir avec toutes ses capacités, et plus encore, de développer ses capacités pour un meilleur service du bien commun, c'est-à-dire un meilleur respect de la justice, car c'est justice que le timonier soit à la barre et non pas au cordage, que le mousse soit en haut de la mâture et non pas à la barre, et que le capitaine soit sur ses cartes ou au sextant et non pas ailleurs. C'est justice. C'est justice, c'est-à-dire qu'il est normal que le capitaine répartisse ainsi les charges, mais c'est un devoir de justice pour chacun de tenir cette place qui lui était assignée et aucune autre. D'ailleurs, c'est tellement normal que même si les places n'étaient pas réparties par l'autorité, le timonier se mettrait naturellement à la barre, le mousse se mettrait naturellement dans la mâture, les matelots de bâbord se mettraient naturellement à bâbord, ceux de tribord naturellement à tribord, etc., etc. Parce que cela correspond à la nature des choses, ça ne s'invente pas. Enfin, je reviens là sur mon sermon de la semaine dernière, dans lequel je vous disais que le droit nous est extérieur et que ce n'est pas nous qui le faisons ou le réformons, nous ne pouvons que nous y adapter. Contrairement à ce qu'on croit, nous ne sommes pas maîtres. La justice, la vertu de justice, nous oblige à nous adapter à une situation qui ne dépend pas de nous. Comme elle ne dépend pas d'ailleurs du capitaine. Le capitaine répartit les charges, mais il ne dépend pas de lui de mettre le timonier à la barre ou ailleurs. Le timonier doit être à la barre. Il ne dépend pas de lui de mettre le mousse en haut de la mâture. Le mousse doit être en haut de la mâture. Vous me direz, mais alors pourquoi l'autorité intervient-elle ? Elle intervient peu, justement, dans une société dans laquelle règne la justice. Elle va intervenir uniquement comme arbitre lorsque des matelots prétend que la place qui lui est assignée n'est pas celle qui lui convient. À ce moment-là, l'autorité intervient pour dire oui ou non, effectivement, tu es ou tu n'es pas à ta place. Elle va intervenir si le mousse ne veut pas monter dans la mâture. Mais là, on a affaire à un défaut, c'est-à-dire qu'on a affaire à un mousse qui n'a plus la vertu de justice, qui refuse le poste qui lui revient de droit et par devoir. Et l'autorité, à ce moment-là, va obliger le mousse à monter dans la mâture. Mais si tous les mousses sont parfaitement justes, obéissants et courageux, à ce moment-là, le capitaine intervient très peu. Il intervient uniquement pour des choses qui dépassent les matelots, à savoir carguer les voiles, hisser telle voile, rentrer la grand voile, sortir le foc, prendre telle direction, mettre la barre dans telle direction ou dans telle autre, éviter tel écueil, choses qui ne dépendent pas des matelots, qui ne dépendent évidemment que du capitaine à cause de son expérience, ou du capitaine en second, à cause de leur expérience. Et encore une fois, c'est leur expérience qui fait que les officiers sont officiers, que le capitaine ou son second tiennent telle ou la place qu'ils doivent tenir. C'est leur expérience, ça n'est pas arbitraire, ils n'ont pas le choix. Le capitaine qui ne ferait pas cela ferait de la fausse humilité, ne serait pas à son poste. C'est ce que je vous disais donc la dernière fois. Il était nécessaire d'y revenir un petit peu. Mais je voudrais bien vous montrer aujourd'hui le caractère général de la vertu de justice. C'est-à-dire qu'elle nous prend tout entier. Et saint Thomas d'Aquin pose la question, alors qu'en est-il des vertus comme la tempérance ou la force? Se confondent-elles avec la justice? Oui ou non? Et saint Thomas, à la suite d'Aristote, avec leur sagesse habituelle, dit « Bien sûr qu'il existe une vertu de tempérance. Elle met de l'ordre dans le sujet, dans l'homme, par rapport à ses passions. Mais c'est la vertu de justice qui va diriger la tempérance. Et c'est la vertu de justice qui va rappeler à l'homme son devoir et qui va le pousser à mettre de l'ordre dans ses passions, parce que sans cela, il ne pourra pas tenir sa place sur le bateau. C'est la vertu de justice qui commande de prendre un coup de gnôle lorsque le mauvais temps rend la manœuvre difficile. Et c'est une forme de tempérance commandée par la justice. C'est la vertu de justice qui commande de ne pas prendre le coup de gnôle lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est la vertu de justice qui oblige à sourire dans le danger et à chanter dans le danger. C'est la même vertu de justice qui oblige à être courageux, etc., etc. Vous constatez, bien sûr, l'exemple du bateau n'est qu'un exemple, mais si vous le transposez au niveau d'une société, cela est très parlant. Et vous constatez que la vertu de justice a été terriblement attaquée par ce qu'on doit bien appeler les révolutionnaires, les ennemis de Dieu, les ennemis de l'homme, les ennemis de toute civilisation. Parce qu'ils savent très bien que la justice est contre-révolutionnaire. Et je voudrais développer un troisième point, à savoir que cette vertu de justice qui oblige l'homme à se mettre au service d'un bien qui le dépasse n'est pas injuste envers le particulier lui-même, envers l'individu, si vous voulez. À savoir que un matelot sera d'autant plus épanoui personnellement qu'il se sera mieux mis à sa place au service du bien commun. Il est évident que lorsqu'après la campagne en mer, le jeune mousse, puisqu'il partait très tôt, le jeune mousse revient vers sa mère après la première campagne en mer, il revient vers sa maman, et de quoi est-il fier ? « Maman, je suis monté tout en haut de la mâture, j'ai eu peur, mais j'ai dominé ma peur. Maman, tu peux être fière de moi. Grâce à cela, nous avons évité des écueils, qu'on ne peut voir que tout en haut de la mâture. Et j'ai été bien courageux, tu sais, parce que là-haut, il fait froid. Et puis là-haut, ça bouge très fort. Alors, on a peur. Et quelquefois, on a l'impression qu'on va tomber. D'autant plus que quelquefois, il y en a qui tombent, effectivement. Et la maman est fière de son petit mousse. Je vous donne un autre exemple. Vous prenez un ensemble de musique. Je dis un ensemble de musique parce que les orchestres sont trop gros. Et moi, je jouais dans de la musique ancienne et l'exemple vaut beaucoup mieux pour cela. Vous tenez votre place, votre partition. Vous avez évidemment une partie à jouer qui est la vôtre et qui est celle de personne d'autre. Bien sûr, si c'est la partie supérieure, tout le monde vous entend, vous avez le chant. Si c'est la partie inférieure, la plus grave, tout le monde vous entend aussi. Si ce sont les parties intermédiaires, vous êtes un petit peu noyé dans la masse. Ben, c'est le but du jeu. Il y a un équilibre. Et il n'est pas question qu'on entende les parties intermédiaires plus que le chant qui est au-dessus. N'y a-t-il pas une fierté à la fin du concert? Il n'y a-t-il pas une fierté d'avoir participé à une belle œuvre commune? Et si un des musiciens, si un jeune musicien par exemple, se plaignait qu'on ne l'ait pas assez entendu parce que il tenait une voix intermédiaire, on le remettrait à sa place en lui disant « Pour qui te prends-tu » et en même temps on lui dirait « Mais que cherches-tu ? » Tu cherches à une mise en valeur égoïste ou tu cherches à t'épanouir dans la musique. Il est évident que le jeune qui tiendrait une partie intermédiaire n'en serait pas content et voudrait absolument se faire entendre plus que les autres, très vite serait dégoûté de la musique parce que la musique l'oblige à tenir sa place et non pas à en sortir. Et il serait capricieux, c'est du caprice. Et nécessairement, son caprice ferait qu'il ne supporterait pas la loi commune de l'ensemble de musique. Le saint Thomas d'Aquin nous dit, et Aristote de même, qu'il n'y a pas de bien plus vrai pour l'homme individuel que le bien commun. Parce que l'homme est fait pour des grandes choses qui le dépassent et il s'épanouit beaucoup plus en se mettant au service de grandes choses qui le dépassent que en cherchant sa propre satisfaction, ce qui se traduit par chercher ses caprices. Je sais bien que je vous fais un sermon et que pour l'instant je ne vous ai pris que des exemples naturels, mais c'est la base. Comment voulez-vous construire une société surnaturelle? Comment voulez-vous vous mettre au service de l'Église si on n'a pas ces réalités, la conscience de ces réalités premières? L'heure passe, je ne voudrais pas que ce sermon soit trop long, l'exemple m'a un peu emporté. Je vous demande de réfléchir cette semaine, sur ce sermon d'abord, je vous demande de réfléchir sur tout d'abord l'éducation et puis sur ce qui s'oppose dans vos vies à vous, hein, à cette vertu de justice générale qui vous met au service du bien commun. Ne restez pas dans les poncifs, les choses qu'on lit dans le Figaro magazine, par pitié. Cherchez à voir dans vos vies, vos problèmes à vous. Voyez comment la société moderne s'oppose à la vertu de justice, à la vraie belle vertu de justice. Vous avez remarqué, encore une fois, que je ne vous ai pas parlé de la justice entre égaux, achat, vente, tu me dois, je te dois. Ça viendra à la fin, à toute fin. Parce que ça, c'est au service du bien commun aussi. Et je vous demande de réfléchir également à l'éducation. Pourquoi notre jeunesse n'est-elle pas à sa place? Pourquoi nos jeunes ne sont-ils pas à sa place? Pourquoi sont-ils si décevants? Quel est le problème et surtout comment pouvons-nous y remédier? Je vous laisse à ces réflexions. Demandez la grâce du Saint-Esprit. Ce sont des questions essentielles. Nous ne pouvons pas aujourd'hui passer à côté de ces questions-là si nous voulons être de la fidélité catholique. Cela suppose que nous soyons de la fidélité tout court, d'abord, et pour être de la fidélité, cela suppose que nous tenions nos places. Nous avons tous des places de capitaine de nos enfants, de capitaine de nos concitoyens qui sont désemparés, de capitaine pour nous, prêtres. Nous avons tous des places de capitaine. Et c'est à nous de chercher à résoudre le problème des mousses et des matelots qui vont faire la sieste alors que la tempête fait rage, qui refusent de chanter lorsque tout le monde hâle sur les cordages, qui finalement ne sont pas à leur place et sont des gros égoïstes qui croient être plus heureux en faisant la sieste ou en se taisant, et qui ne se rendent pas compte des joies à côté desquelles ils passent. Que Dieu vous bénisse Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.